Espace 2. La vie côté culture. La vie côté culture.
Plus de 60 animaux défilent dans la Bible. Et ils ont chacun quelque chose à dire pour celui qui part à la découverte du sens des livres inspirés dans le premier comme dans le deuxième testament. Des animaux qui sont comme des signes sur le chemin du psychisme humain et sur la voie de la connaissance divine. Alors, nouvelle page aujourd'hui de ce bestiaire de la Bible en compagnie de son auteur Jean-François Froger, rencontré par Raphaël Paquier. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans cette série à vue d'esprit réalisée par François Zieni.
À vue d'esprit. Fabien Unenberger.
Raphaël Paquier, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors on le découvre petit à petit, dans votre série, tous les animaux de la Bible ont quelque chose à signifier, à dire aux croyants sur ce chemin de foi qu'est la Bible. En tout cas, c'est la thèse, une thèse forte, présentée par les auteurs de ce bestiaire de la Bible.
Oui, parfaitement. Chacun d'eux, nous l'avons vu pour le serpent, pour l'aigle, par exemple. Vous connaissez sans doute aussi la place donnée traditionnellement à l'âne et au bœuf dans la crèche de Noël. L'âne et le bœuf qui ne figurent pourtant pas dans les évangiles, mais bien chez le prophète Isaïe. Là où il est dit que l'âne reconnaît son étable et le bœuf son bouvier, tandis qu'Israël, lui, eh bien, ne connaît rien, ne comprend rien. Alors partons aujourd'hui à la découverte de cet âne aux grandes oreilles et de ce bœuf fidèle, fort et docile, avec d'abord le portrait de cet âne bien sympathique qui mérite d'être mieux connu.
Un âne et un bœuf, deux animaux tout à fait sympathiques, de nos écuries encore, hein, pour ceux qui vivent à la campagne. Donc l'âne est un animal extrêmement robuste et très sobre, ça c'est ce qui le caractérise immédiatement. Un peu revêche aussi, alors on dit qu'il a un mauvais caractère, et pourtant il accepte de porter tous les fardeaux possibles. On verra que l'âne a un rapport au fardeau tout à l'heure, mais je veux dresser d'abord un tableau. Et le bœuf, eh bien, c'est l'animal de la puissance du travail. Dans le fond, il provient de la castration d'un taureau. Et donc, c'est tout. Le bœuf va nous mettre en présence de réalités d'un autre ordre, du travail. Mais pas du tout du portage, mais du labourage. Donc, on va lui mettre le joug sur le bœuf, hein, pour faire travailler à deux. Parce que, pour harmoniser le pas de deux bœufs, comme on mettait des traits pour les chevaux. Et le joug, donc, va unir la force et rendre le pas des bœufs commun, en consonant, ce qui va être une figure pour les apôtres, qui vont deux par deux. Et il faut que leurs paroles s'accordent, comme le pas des bœufs qui tirent la charrue. Mais le bœuf, donc, met toute sa puissance d'animal au service du travail humain. Autrement dit, l'homme réussit par la domestication à mettre la puissance animale au travail. C'est ce qu'il fait pour lui-même. Lorsque nous travaillons, nous mettons la puissance corporelle au travail. Nous ne nous contentons pas de vivre. Et bien sûr que c'est une nécessité de travailler pour transformer le monde, donc nous avons besoin de cette puissance animale. Eh bien, donc le bœuf va figurer cette saisie de la puissance de la nature, là qui est vivante, c'est un moteur autonome, il suffit qu'il mange un peu, pour donner sa puissance. Mais il va falloir une technologie en même temps, parce qu'il faut maîtriser par la volonté, parce que pourquoi un bœuf se laisserait faire, l'animal, et construire une charrue pour pouvoir retourner la terre derrière. Et voyez qu'en fait, c'est la transmutation de la puissance du taureau, puisqu'il s'agit d'inséminer la terre en semant. C'est la même racine en latin et en hébreu aussi. Hein. Semen, qui donne séminaire. Un séminaire, c'est un lieu où on insémine l'esprit de bonnes semences de paroles, évidemment. Donc vous voyez que toutes les analogies qu'on rencontre dans l'écriture sont encore tout à fait vivantes pour nous. Nous faisons des séminaires de ceci et de cela. Donc pour apprendre, pour recevoir de l'information. La semence, c'est de l'information qui va permettre à des choses de pousser et ensuite de nourrir. Eh bien, donc le bœuf, l'âne et le bœuf autour de Jésus sont pas là pour décorer, mais pour enseigner. Et nous allons essayer de poursuivre cet enseignement en repartant de l'âne d'abord. Alors, l'âne est bien connu, petit, robuste et sobre, apte à porter des fardeaux et avec des grandes oreilles. À tel point qu'on mettait un bonnet d'âne au mauvais élève. Pourquoi ? Le châtiment a été proportionné à la faute aussi, parce que s'ils étaient mauvais élèves, c'est qu'ils n'avaient pas bien écouté et qu'il leur fallait des oreilles un peu plus attentives. Alors un bonnet d'âne, c'est d'avoir de grandes oreilles, ce que tout disciple doit avoir. Car la première chose à faire, c'est d'écouter, comme dit l'Écriture. Écoute Israël. Et c'est le credo de tous les jours. Shema Israël. Yod He Vave Eloheinu. Yod He Vave Echad. C'est l'affirmation de foi première. Et donc, avant tous les autres commandements. Et d'ailleurs, comment entendrait-on les commandements, la Torah et toute la tradition, si on n'a pas d'oreille? Donc, la première chose à éveiller et à cultiver chez un homme, ce sont ses oreilles. Donc, lui donner un bonnet d'âne. S'il n'y arrive pas tout seul, il faut lui dire écoute, écoute. Parce que écouter est une science. Écouter est un art. Écouter est de l'ordre du don. Voyez, vous écoutez, les auditeurs vont en faire autant, et vous provoquez ma parole. Donc vous êtes co-responsable de ma parole. Parce que si vous n'écoutiez pas, je ne parlerais pas. Donc l'écoute va être aussi à l'origine de la parole. Et il est bien connu aussi qu'en nous, nous ne pouvons parler si nous n'avons pas entendu parler. Donc, l'écoute est première. C'est quelque chose d'extraordinairement important. Et aujourd'hui, nous avons un effort très grand à faire, me semble-t-il, dans la relation sociale, à écouter l'autre, pas l'interrompre, écouter ce qu'il dit. Ensuite, répondre, bien sûr, hein, puisque nous sommes dans un dialogue. Mais comment y aurait-il un dialogue s'il n'y a pas d'abord de l'écoute? Ce qui va, c'est un cadeau à l'autre, l'écoute, aussi. C'est une offrande. C'est que ça lui donne d'exister en tant qu'homme parlant. Donc, celui qui écoute provoque l'humanité à s'épanouir. C'est un cadeau, c'est pas une passivité. Et quand, par exemple, les fidèles vont à l'office, eh bien, bon, ils ont à chanter, à répondre un peu, mais surtout à écouter. Mais c'est pas une passivité. Ils sont acteurs de la parole qui va avoir lieu, parce que si cette parole n'est pas entendue, c'est du bruit dans l'air. Et du coup, c'est blasphématoire de ne pas écouter une parole divine, parce que c'est dire à Dieu, tu peux toujours causer. Alors ça, c'est un blasphème. Et c'est une destruction de l'homme, puisque l'homme ne vit que de ce qu'il entend. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu, même à travers la révélation, etc. Donc voyez, donc cet âne qu'on met dans la crèche est une chose très importante. Ça nous rappelle que dès que Jésus naît, tout bébé, au fond de sa crèche, il y a déjà une écoute. Et cette écoute est animale. Car la première écoute en nous ne peut être qu'animale. Elle est la forme, en quelque sorte, d'attention au son. Et il va falloir que l'intelligibilité s'établisse. Il ne suffit pas d'entendre les sons, il faut comprendre ce qui est dit. Et il ne suffit pas d'entendre un oiseau, il faut repérer que c'est un oiseau qui chante. Et alors, on sait que c'est le chant d'oiseau. Et c'est autre chose que simplement le son. Vous voyez, on vit dans le monde avec intelligence en écoutant. Oh. Cet âne est présent dès la Genèse. On va le trouver dans la crèche. Mais remontons un peu plus loin, parce que Jésus accomplit toutes les Écritures. Et il accomplit une chose remarquable, c'est l'âne qui est l'animal emblème d'une tribu d'Israël, dont il ne fait pas partie, mais il les résume toutes, Issachar, hein, donc un des fils de Jacob. Et qu'est-ce que dit Jacob ? Issachar est un âne robuste. Et c'est vrai que c'est une des caractéristiques de l'âne, c'est d'être vraiment très robuste. Couché au milieu des enclos, il aime bien se reposer aussi. Il a vu que le repos était bon, que le pays était agréable. Remarquez que pour goûter que le repos est bon, il a fallu travailler avant. Parce que sinon, on ne sait même pas ce que c'est que le repos. Donc l'âne, il est travailleur, grâce à l'éducation de l'homme, bien sûr, au dressage. Mais c'est une figure du travail. Et quand on a bien travaillé, on goûte comme le repos est bon. Et donc on ne peut pas prendre des vacances perpétuelles, on s'ennuierait tout de même. Et il voit que le pays est agréable. Il a tendu son épaule au fardeau, il est devenu l'esclave à la corvée. Donc c'est il y a toute une tribu d'Israël, qu'on va retrouver dans l'Apocalypse évidemment, qui figure cette chose. Eh bien, il est intéressant de faire un petit détour dans la tradition targoumique. Le targoum, c'est la traduction en araméen de l'hébreu qui n'était plus compris du temps de Jésus par le peuple. Alors, qu'est-ce que dit le targoum ? Un des targoums, parce qu'il y en a plusieurs. Issachar porte la charge de la Torah. C'est une tribu puissante, connaissant les déterminations des temps. Elle est étendue entre les territoires de ses frères. Il vit que le repos du monde à venir était bon et que sa portion de la terre d'Israël était plaisante. C'est pourquoi il inclina l'épaule pour s'adonner à l'étude de la Torah. Et ses frères lui offraient des présents. Évidemment, si on s'adonne à l'étude de la Torah, il faut quand même manger. Donc il faut que les autres fournissent un peu. Un peu comme on fournit quelque argent au prêtre, puisque c'est bien qu'il célèbre, qu'il prie, ben il faut quand même qu'il mange et qu'il s'habille. Donc il est juste que les autres membres de la tribu, ici les chrétiens dans le grand corps de l'Église, fournissent de quoi vivre à leur clergé, dont un des rôles principaux, c'est l'étude de la Torah. Étendu à l'évangile, bien sûr, mais l'évangile est justement l'explicitation de la Torah. Il n'y a pas un mot de l'évangile qui soit compréhensible si on ne connaît pas la Torah. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi. Et en bonne logique, donc, si on ne croit pas Moïse, on ne peut pas croire Jésus. On ne va faire que des contresens. Et c'est une des graves questions quand on passe dans une autre langue. Par exemple, quand on est passé au grec pour les évangiles, dans une traduction, eh bien, comment ne pas faire de contresens et donc d'hérésie au peuple qui, lui, n'a pas été instruit de la Torah ? Donc, il faut reprendre racine dans la Torah si on veut comprendre l'évangile. C'est une nécessité complète. Et je dirais même, dans l'autre sens, à mes amis juifs, que s'ils voulaient vraiment comprendre la Torah, il faudrait lire les évangiles. Je ne dis pas y adhérer, mais au moins le lire. Pourquoi ? Parce que justement, on y trouve des explicitations. Et pour donner une comparaison, à la façon de notre maître, l'Ancien Testament, la Torah, Nebi'im Vekituvim, hein, les prophètes et les écrits, c'est un peu comme une serrure. Et l'Évangile, c'est un peu comme une clé. Quand on a la serrure et qu'on n'a pas la clé, on peut ni entrer ni sortir. Quand on a la clé et qu'on n'a pas la serrure, eh bien, on ne peut ni entrer ni sortir non plus. Vous voyez ? Et c'est un peu la situation que je trouve aux chrétiens, c'est d'avoir une clé qui ne sert à rien, et aux juifs, d'avoir une serrure qui ne sert à rien. Alors, si jamais on peut rêver, hein, comme Martin Luther King, j'ai un rêve, c'est que les juifs et les chrétiens fassent vraiment connaissance et se donnent mutuellement la serrure et la clé. Ça serait beau.
Alors, suivons peut-être la trace de l'âne qui nous dit beaucoup de choses sur la clé et sur la serrure. Oui. Jean-François Froger.
Et donc, pas de doute possible, le fardeau à porter, d'après l'interprétation targumique, parce qu'on ne traduit pas sans interpréter. Eh bien, ce fardeau que porte l'âne, c'est la Torah. Eh bien, et immédiatement, quand on connaît l'Évangile, et qu'on sait que Jésus est entré à Jérusalem le jour des rameaux, porté sur un âne. Alors on dit, ah oui, mais c'est par humilité, parce qu'il n'est pas monté sur un cheval comme un chef de guerre, etc. Oui, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Jésus était humble, il n'y avait pas besoin de le démontrer. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de démontrer ce genre d'affaires. Mais ce qu'il y a besoin de montrer, c'est que Jésus est ce fardeau de la Torah, incarné. Et c'est bien ce qu'il veut signifier. Alors c'est très important. Et en plus, ça va éclairer son propre enseignement. Quel est son rapport à la Torah? D'autant plus que nous savons qu'il a dit « Pas un iota de la Torah ne passera, que tout ne soit réalisé. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Alors regardons comment il accomplit. Il dit par exemple « Venez à moi, vous tous qui peinez, éployés sous le fardeau. » Qu'est-ce que c'est que ce fardeau? L'étude de la Torah. Vous ployez, pourquoi? Parce que vous apprenez par cœur. Vous discutez pour comprendre ce que ça signifie, mais la clé, vous ne l'avez pas. La clé de la Torah, ce n'est pas les études philologiques, ni historiques, ni traditionnelles. La clé, c'est le Christ. Et pourquoi? Je fais peut-être une digression, si vous me permettez. C'est que la clé de la Torah, c'est la vérité du corps humain. La vérité du corps humain ne va se voir qu'à la résurrection. Parce que nous, nous croyons que le corps humain est fait pour la mort. Or, le corps humain est fait pour la vie. Que ça soit une clé de la Torah, j'en donne la démonstration tout de suite, en quelques mots. Quelle est l'institution fondatrice du peuple d'Israël? C'est justement dans le don de la Torah, à Moïse, sur le mont Sinaï. Le premier rituel, le rituel essentiel, qu'il enseigne après avoir donné le décalogue, le Shabbat. Tu respecteras le Shabbat. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple. Le Shabbat est rituellement un jour réservé à Dieu, avec un interdit, qui est l'interdit du travail. Donc on ne doit même pas être un âne ni un bœuf, le jour du Shabbat. Ça pose un problème par rapport à la Torah. Donc ce Shabbat va porter sur l'interdit du travail. Donc ça sacralise le jour. C'est un jour qui n'est pas un jour. Et d'ailleurs, quand on lit la Genèse, on voit que le septième jour n'a ni matin ni soir. Contrairement à tous les autres jours où on nous dit « Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom » Echad, Yom, Sheni, etc. Yom Hashishi, hein, donc jour premier, jour deuxième, jour sixième, le sixième. Et pour le septième jour, il n'y a pas cette ritournelle qui est très importante, parce que le zéro est très important pour compter, les silences sont très importants pour comprendre, et à silence, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de matin et pas de soir. Et donc, ça n'est pas un jour. Donc, on prend un jour et on en fait un non-jour, bien sûr que la Terre continue à tourner, et le soleil illuminé, mais on fait rituellement d'un jour un non-jour. Et on interdit de travailler, c'est-à-dire que l'homme ne peut plus utiliser son corps pour transformer le monde, ne peut pas transformer son corps en instrument. Donc interdit sur l'instrumentalisation du corps humain. À quoi peut bien servir un corps humain qui n'est plus un instrument? À rien. Donc la destinée du corps est de ne servir à rien. Quand un corps peut-il ne servir à rien? Pas dans cette vie actuelle. Parce que il ne peut que servir. Quand il est hors service, non pas mort, mais vivant, c'est un corps ressuscité. Et donc, je dis que le Shabbat est la première prophétie de la résurrection. Et c'est pourquoi c'est la résurrection du Christ, du Messie, qui montre que le corps humain traverse la mort et doit être reconstitué autrement qu'il n'est en tant qu'instrument, qui est la clé de toutes les Écritures. la résurrection de Jésus, Messie, donne la clé d'intelligibilité de toute la Torah, les prophètes et les écrits. Et c'est pourquoi je propose à mes amis juifs de lire l'écriture jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'Apocalypse.
Depuis les grandes oreilles de l'âne qui nous invite à l'écoute et à la compréhension de ce mystère qui traverse les Écritures, Jean-François Froger, nous avons l'âne et le bœuf à la crèche, nous avons l'âne qui supporte le Christ à l'entrée à Jérusalem. Donc, vous faites le lien entre les deux.
Oui, donc nous résumons en disant que Jésus incarne toute la Torah et en donne l'explication vivante par sa propre résurrection. Et c'est ça qui est porté à Jérusalem pour monter vers la passion. Ce que les disciples ne comprennent pas. Mais pourquoi tu vas te faire tuer? Mais il le sait très bien. Parce que, justement, il faut montrer la résurrection. Alors, l'âne n'est pas seul, évidemment. Il porte le fardeau de la loi, c'est-à-dire, en nous, il y a cette instance d'écoute qui est première pour porter l'enseignement que nous recevons. Donc, tout disciple est un âne. Non pas qu'il soit bête, mais il écoute. Hein. Ensuite, évidemment, prenez mon joug et apprenez de moi, car mon joug est plaisant, mon fardeau facile. Vous comprenez que ce qui repose du fardeau, c'est l'intelligence. Quand on connaît un texte qu'on ne comprend pas, on en est accablé. On a besoin de recours à des vertus de fidélité aveugle. Mais quand on comprend, on n'a même pas besoin d'être fidèle, on est joyeux. On n'est plus disciple, on est ami. On n'est plus sous le joug, on est compagnon du maître. Alors, prenez sur vous mon joug. Ah ça, ça ressemble au bœuf. L'âne et le bœuf sont liés dans la parabole même de Jésus. Alors pour le comprendre, il faut aller voir justement le prophète, parce qu'il réalise une parole prophétique. En enseignant de cette façon-là. Jésus est très fin, il enseigne, tout est à la fois évident, tout est caché. Alors, à quoi fait-il allusion? Mais à l'enseignement du prophète Yeshayahu, Isaïe. Et que disait-il? Le bœuf connaît son bouvier, et l'âne connaît la crèche de son maître, Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. C'est la démonstration de ce que j'ai dit précédemment. Ça restait vrai jusqu'à Jésus. Et donc quand il dit « prenez sur vous mon fardeau », ça fait référence à l'âne, « le joug », ça fait référence au bœuf, ça veut dire « mais le bœuf connaît son bouvier, l'âne connaît la crèche de son maître ». C'est-à-dire que le bœuf et l'âne vont signifier cette connaissance profonde de Dieu dans l'homme. Parce que la crèche de Dieu, c'est l'homme, c'est la chair humaine. L'homme est ce qui doit recevoir la divinité, pas simplement dans un rituel extérieur, mais jusqu'au tréfonds de sa chair, de son sang, de son âme. Il doit être présent en nous comme ce qui nous fait vivre, ce qu'il est, mais ce que nous renions. Et donc, le bœuf connaît le bouvier, l'âne connaît la crèche de son maître. Grande plainte du prophète au nom de Dieu. Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. Pourtant, il connaît les Écritures. Donc Jésus fait ça. Pourquoi? Parce qu'il prétend, lui, comprendre l'Écriture et la faire comprendre aux disciples. Comprenez. Et d'ailleurs, une des grandes plaintes de Jésus par rapport à ses propres disciples, ils sont tous juifs, évidemment. À l'époque, on ne parle pas de chrétiens. Qu'est-ce qu'il reproche à ses disciples? Comment? Vous ne comprenez toujours pas? Mais ça revient comme une plainte permanente dans les 3 ans d'enseignement de Jésus.
La lenteur à croire et la lenteur à comprendre.
Et la lenteur à comprendre. Vous avez l'esprit bouché. Et même après la résurrection, regardez bien ce qu'il fait. Il rejoint ses disciples dans son corps ressuscité. Il se fait reconnaître, il faut reconnaître le maître quand même. Et ensuite, il les enseigne, et il leur ouvrit l'intelligence à tout ce qui le concernait dans les Écritures, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les écrits. Jésus ne pense qu'à ça, faire comprendre, ouvrir l'intelligence au sens des Écritures, en ce qui le concernait, c'est-à-dire en ce qui concerne toutes les Écritures, puisque toutes les Écritures le concernent. Il est la clé. Donc, Jésus ressuscité fait réviser, en quelque sorte, ses disciples, toutes les Écritures, c'est-à-dire Moïse, les prophètes, les psaumes, pour qu'ils comprennent enfin. Et il le fait de deux façons. En les enseignant encore. Alors, qu'est-ce que c'est que cet enseignement du type de l'enseignement de Jésus ressuscité? C'est pas l'enseignement le long des routes de Galilée, c'est un enseignement nouveau et qui a été à la naissance même des évangiles. Car il a fait faire une remémoration de son enseignement en montrant que c'est la clé des Écritures, justement.
Le bestiaire de la Bible au pas de l'âne et du bœuf. C'était une nouvelle page ouverte aujourd'hui par Jean-François Froger, auteur d'un livre, un album que nous continuerons à visiter demain en votre compagnie, Raphaël Paquier, avec cette fois-ci un coup de cœur de votre invité.
Ah oui, le coup de cœur de Jean-François Froger avec le cerf magnifique au pays du Cantique des Cantiques, le cerf qui, dans l'iconographie chrétienne, représente le Christ lui-même.
Alors merci beaucoup Raphaël, rendez-vous demain. Je vous rappelle encore une fois le titre de l'ouvrage signé par Jean-François Froger et Jean-Pierre Durand. Il s'agit du Bestiaire de la Bible, un livre publié en 1994 aux éditions des Iris. Et puis on va donner notre numéro de téléphone si vous souhaitez commenter cette série que vous venez d'entendre, réagir, nous faire part d'une affection particulière pour un animal ou pour un autre. Le 021 318 60 70, 021 318 60 70. Madame, mademoiselle, monsieur, une très bonne suite d'après-midi sur les ondes d'Espace 2. Dans quelques instants, les informations, puis ce sera Dernier Entendu.
Espace 2. Notre adresse internet, espace2.ch.